19. Rédemption. Livre 1. Jake. L'effroi dans une poignée de poussière. Première partie. L'ours et l'os. Chapitre 1. C'était la première fois qu'elle tirait de vraies balles et la première fois qu'elle utilisait l'étui que lui avait fabriqué Roland. Ils avaient des munitions en abondance. Roland avait rapporté plus de 300 cartouches du monde où Eddie et Susanna Dean avaient vécu avant qu'ils ne les tirent. Mais l'abondance n'encourage pas le gaspillage, bien au contraire. Les dieux désapprouvent le gaspillage. C'était ce que le père de Roland, puis Cort, son maître, lui avait enseigné, et il le croyait toujours. Les dieux ne punissent pas les pêcheurs sur le champ, mais tôt ou tard, il faut payer le prix de son péché. Et plus l'attente est longue, plus le châtiment est lourd. De toute façon, il n'avait pas eu besoin de vraies balles, du moins au début. Roland était un tireur d'élite depuis plus d'années que la belle femme noire clouée à son fauteuil roulant n'aurait pu l'imaginer. Il s'était contenté de corriger sa visée en la regardant braquer son arme vide sur les cibles qu'il avait installées à son intention. Elle apprenait vite. Eddie aussi. Comme il s'en était douté, c'était tous les deux des pistoleros nés. Ce jour-là, Roland et Susanna s'étaient rendus dans une clairière située à 1 kilomètre environ du campement qui leur servait de foyer depuis presque 2 mois. Les jours s'étaient écoulés, paisibles et semblables. Le pistolero avait guéri de ses blessures pendant qu'Eddie et Susanna suivaient son enseignement. Il leur apprenait à tirer, à chasser, à vider et à nettoyer les bêtes qu'ils avaient tuées, à étirer puis à tanner et à traiter leur peau, à tirer parti le plus possible de leur prise, à retrouver le nord grâce au vieil astre et l'est grâce à la vieille mer, à écouter la forêt dans laquelle ils se trouvaient, une centaine de kilomètres au nord de la mer occidentale. Ce jour-là, Eddie était resté seul au campement et le pistolero n'en était nullement décontenancé. Roland savait que les leçons qui marquaient le plus durablement étaient toujours celles que l'on apprenait de soi-même. Mais la plus importante de toutes les leçons n'avait pas changé. Comment tirer? Comment atteindre sa cible à tous les coups? Comment tuer? La clairière était bordée au nord par un demi-cercle grossier de sapins sombres et odoriférants. Au sud, le terrain se faisait chaotique et descendait sur une hauteur de 100 mètres, formant un gigantesque escalier de corniches et de falaises fracturées. Un ruisseau jaillissait des bois pour traverser la clairière en son centre, bouillonnant au fond de son lit bordé de mousse et de pierres friables avant de se déverser sur une plage de rocs fissurés donnant sur le vide. L'eau dévalait les marches en cascade, donnant naissance à une multitude d'arcs-en-ciel ondoyants. La falaise dominait une vallée profonde et magnifique, peuplée de sapins au sein desquels on apercevait des ormes séculaires qui refusaient de leur céder le terrain. Ces titans aux frondaisons luxuriantes étaient peut-être déjà vieux lorsque la terre qui avait vu naître Roland était encore jeune. La vallée semblait n'avoir jamais souffert du feu, bien qu'elle ait pu attirer la foudre à un moment ou à un autre de son existence. Et la foudre n'était pas le seul danger qui la menaçait. Cette forêt avait jadis été peuplée d'êtres humains. Roland avait trouvé des vestiges d'occupation à plusieurs reprises lors des semaines précédentes. Il s'agissait pour la plupart d'objets fort primitifs, parmi lesquels figuraient néanmoins des morceaux de poterie qui n'avaient pu être façonnés que par le feu. Et le feu est une entité maléfique qui prend plaisir à échapper aux mains qui l'ont créé. Au-dessus de ce paysage pittoresque s'étendait un ciel d'un bleu sans reproche, où l'on apercevait quelques corbeaux croassant de leurs vieilles voies rouillées. Ils semblaient agités, comme si la tempête était proche. Mais Roland avait humé l'air sans y percevoir de menace de pluie. Un rocher était planté à gauche du ruisseau. Roland y avait posé 6 cailloux. Ils étaient constellés de mica et brillaient comme du verre à la lumière de l'après-midi. « C'est ta dernière chance, » dit le pistolero. « Si cet étui te gêne, même un petit peu, dis-le tout de suite. Nous ne sommes pas venus ici pour gaspiller les munitions. » Susanna lui lança un regard sardonique, et l'espace d'un instant, il revit le visage de Detta Walker. Tel un rayon de soleil paresseux ricochant sur une barre d'acier. Que ferais-tu si l'étui me gênait et si je refusais de te le dire, si je ratais ces si minables cailloux? Tu me donnerais un coup sur la tête, comme le faisait ton vieux prof? Le pistolero sourit. Il avait plus souri pendant les 5 dernières semaines que durant les 5 années qui les avaient précédées. Je ne peux pas, et tu le sais bien. Tout d'abord, nous étions des enfants qui n'avaient pas encore subi leur rite de passage. On peut gifler un enfant pour le réprimander, mais dans le monde d'où je viens, les personnes de qualité n'apprécient guère que l'on gifle un gamin, dit sèchement Susanna. Roland troussa les épaules. Il avait peine à imaginer un tel monde. Le grand livre ne disait-il pas « Qui ménage sa badine garde son enfant ?» Mais il ne pensait pas que Susanna mentît. « Ton monde n'a pas changé, » dit-il. « Nombre de choses sont différentes là-bas. Ne l'ai-je pas vu de mes yeux ?»«
Sans doute. » »«
Quoi qu'il en soit, Eddie et toi n'êtes pas des enfants. Je n'ai pas le droit de vous traiter comme tels. Et si des épreuves étaient nécessaires, vous les avez subies tous les deux. »
Il pensait, sans le dire, à ce qui s'était passé sur la plage où Susanna avait pulvérisé 3 homards-monstruosités qui se préparaient à écorcher Eddie et lui-même. Il la vit sourire et se dit qu'elle pensait sans doute à la même chose.
« Alors, qu'est-ce que tu feras si je rate mon coup ?»«
Je te regarderai. Je crois que ça suffira amplement. »
Elle réfléchit quelques instants avant de hocher la tête.
« Peut-être. »
Elle examina de nouveau son ceinturon. Il était passé autour de son torse, un peu comme une sangle destinée à soutenir un étui placé sous l'épaule. Un crampon de débardeur, aurait dit Roland. Et semblait fort simple d'aspect, mais sa fabrication avait nécessité plusieurs semaines de tentatives infructueuses, ainsi que de nombreuses retouches. La ceinture et le revolver dont la crosse en bois de santal fatiguée dépassait l'étui avaient naguère appartenu au pistolero. L'étui avait reposé sur sa hanche droite. Il avait passé la majeure partie des 5 semaines précédentes à accepter le fait qu'il ne le porterait plus jamais. Les homarstruosités avaient fait de lui un gaucher.
« Alors, qu'est-ce que ça donne ?» demanda-t-il. Cette fois, elle éclata de rire.
« Roland, il est impossible de rendre ce ceinturon plus confortable qu'il ne l'est déjà. Tu veux que je tire ou tu veux qu'on écoute chanter des corbeaux dans le ciel ?»
Il sentit la tension nerveuse insinuer ses vrilles sous sa peau et se dit que Cort avait dû éprouver la même sensation dans de tels moments en dépit de ses airs bourrus et de son visage impassible. Il voulait qu'elle soit forte. Il avait besoin qu'elle soit forte. Mais s'il le laissait paraître à ses yeux, cela ne pourrait conduire qu'à la catastrophe.
« Récite-moi ta leçon encore une fois, Susanna. »
Elle poussa un soupir d'exaspération feinte, mais lorsqu'elle prit la parole, son sourire s'effaça et son beau visage noir se fit solennel. Et sa bouche prononça la vieille litanie qui paraissait neuve, émergeant de ses lèvres. Jamais il n'aurait cru entendre ces mots dans la bouche d'une femme. Comme il lui semblait naturel, et pourtant étrange et dangereux.
Je ne vise pas avec ma main. Celle qui vise avec sa main a oublié le visage de son père.
Je vise avec mon œil. Je ne tire pas avec ma main, celle qui tire avec sa main a oublié le visage de son père. Je tire avec mon esprit. Je ne tue pas avec mon arme. »
Elle s'interrompit et désigna les cailloux étincelants posés sur le rocher.
« De toute façon, je ne vais rien tuer, ce ne sont que de minables cailloux. »
À en juger par son expression mi-hautaine, mi-narquoise, elle s'attendait à ce que Roland se montre exaspéré, voire furieux. Mais Roland était déjà passé par là. Il n'avait pas oublié que les apprentis pistoleros étaient hargneux et excités, insolents et susceptibles de mordre au mauvais moment. Et il avait découvert en lui un talent insoupçonné. Il savait enseigner. Et même, il aimait enseigner. Et il se surprenait parfois à se demander si tel avait été le cas de Cort. Sans doute que oui. Les corbeaux qui survolaient la forêt se mirent à leur tour à croasser. Une partie de l'esprit de Roland remarqua que leur cri était agité, plutôt que querelleur. On aurait dit que quelque chose les avait effrayés et les avait forcés à fuir leur provende. Comme il avait autre chose à faire que de s'interroger sur ce qui aurait pu effaroucher quelques corbeaux, Il se contenta de classer l'information et se concentra sur Susanna. Agir autrement avec un apprenti signifiait inviter à une seconde morsure bien moins amicale. Et qui serait alors en faute? Qui d'autre, à part le maître? Car ne lui enseignait-il pas à mordre? Ne le renseignait-il pas à mordre à tous les deux? N'était-ce pas la nature même du pistolero si l'on faisait abstraction du sévère rituel et du catéchisme de fer? Un pistolero n'était-il pas un faucon humain entraîné à mordre sur commande? Non, dit-il, ce ne sont pas des cailloux. Elle haussa légèrement les sourcils et esquissa un nouveau sourire. Lorsqu'elle vit qu'il n'allait pas exploser, comme il le faisait parfois quand elle était trop lente ou trop hargneuse, du moins pas encore, elle laissa paraître dans ses yeux la lueur moqueuse qu'il associait à Detta Walker. « Ah bon ?» Le ton de sa voix était encore gentiment taquin, mais Roland savait qu'il virerait à la méchanceté s'il n'intervenait pas. Elle était tendue, prête à bondir, les griffes déjà à moitié sorties. « Eh non !» dit-il du même ton narquois. Il esquissa à son tour un sourire dénué de toute trace d'humour. « Susanna, tu te rappelles les culets de cul blanc ?» Son sourire commença à s'effacer. « Les culets de cul blanc d'Oxford Town ?» Son sourire avait disparu. « Tu te rappelles ce que les culets de cul blanc vous ont fait, à toi et à tes amis ?»« Ce n'était pas moi, » dit-elle. « C'était une autre femme. » Ses yeux avaient un éclat terne et maussade. Il détestait cet air qu'elle prenait, tout en l'appréciant à sa juste mesure. C'était l'air qui convenait, l'air qui lui disait que le feu avait pris et allait bientôt se communiquer aux plus grosses bûches. Si c'était toi, que ça te plaise ou non, c'était Odetta Susanna Holmes, fille de Sarah Walker Holmes. Ce n'était pas celle que tu es, mais celle que tu étais. Tu te souviens des tuyaux d'arrosage, Susanna? Tu te souviens de leurs dents en or? Les dents en or que tu as vues quand ils vous ont tabassé à coups de tuyaux, toi et tes amis? Les dents en or que tu voyais luire quand ils riaient? Elle lui avait parlé de ces choses et de bien d'autres au cours de longues nuits passées près du feu de camp. Le pistolero n'avait pas tout compris, mais il avait quand même écouté avec attention. Et il n'avait pas oublié. La douleur est un outil, après tout. Parfois, le meilleur de tous.
Qu'est-ce qui te prend, Roland? Pourquoi tu me reparles de toutes ces conneries?
La lueur de ses yeux était à présent dangereuse. Roland repensa aux yeux du placide Alain lorsqu'il était poussé à bout. Les cailloux que tu vois là sont ces hommes, dit-il doucement. Les hommes qui t'ont séquestré dans une cellule où ils t'ont abandonné au milieu de tes déjections. Les hommes qui jouaient de la matraque et lâchaient leurs chiens féroces. Les hommes qui t'ont traité de connasse de négresse. Il les désigna l'un après l'autre. Celui-ci t'a pincé le sein et a éclaté de rire. Celui-là a dit qu'il valait mieux vérifier que tu n'avais rien planqué dans ton cul. Celui-ci t'a traité de guenon en robe à $500. Celui-ci n'arrêtait pas de taper sa matraque contre les barreaux jusqu'à ce que tu aies l'impression de devenir folle. Celui-ci a traité ton ami Léon de pédé-gauchiste. Et celui-ci, Susanna, c'est Jack Mort. Les voilà, ces cailloux-là, ces hommes-là.
Elle avait le souffle court à présent. Sa poitrine se soulevait et se rabaissait à un rythme saccadé sous le ceinturon lourdement chargé du pistolero.
Elle ne le regardait plus. Ses yeux s'étaient posés sur les cailloux constellés de mica. Derrière eux, à une certaine distance de la clairière, un arbre se brisa et s'effondra. Absorbé par le jeu qui n'en était plus un, aucun d'eux n'y prêta attention.
« Ah ouais, » souffla-t-elle. « Vraiment.
Vraiment. Maintenant, récite ta leçon, Susanna Dean. Et sois sincère. » Cette fois-ci, les mots chuirent de ses lèvres comme autant de glaçons. Sa main droite posée sur la coudoir de son fauteuil roulant tremblait doucement à la manière d'un moteur au ralenti. « Je ne vise pas avec ma main, celle qui vise avec sa main a oublié le visage de son père. Je vise avec mon œil. Bien. Je ne tire pas avec ma main, celle qui tire avec sa main a oublié le visage de son père. Je tire avec mon esprit. Il en a toujours été ainsi, Susanna Dean. Je ne tue pas avec mon arme, celle qui tue avec son arme a oublié le visage de son père. Je tue avec mon cœur. »
« Alors tue-les au nom de ton père !»
hurla Roland.
« Tue-les tous !»
La main droite de Susanna parcourut à la vitesse de l'éclair la distance qui séparait la coudoir de la crosse du chicou. L'arme jaillit de son étui, sa main gauche descendit vers le percuteur et le releva à 6 reprises, aussi vive et aussi gracieuse que l'aile d'un oiseau-mouche. 6 détonations retentirent au-dessus de la vallée et 5 cailloux disparurent en un clin d'œil. Durant quelques instants, aucun d'eux ne parla. Aucun d'eux ne respira, sembla-t-il. Et les échos des coups de feu rebondirent sur les falaises en perdant de leur intensité. Même les corbeaux étaient muets, du moins pour le moment. Le pistolero brisa le silence d'une voix atone et pourtant étrangement emphatique. « C'est très bien. » Susanna regarda le revolver comme si elle ne l'avait jamais vu. Une volute de fumée montait de son canon, parfaitement verticale dans l'air immobile et silencieux. Puis, lentement, elle rangea l'arme dans l'étui placé sous sa poitrine. « C'est bien, mais ce n'est pas parfait, » dit-elle finalement. « J'en ai raté un. » « Tu crois ?» Roland alla jusqu'au rocher et prit l'unique caillou qui s'y trouvait. Il lui jeta un coup d'œil, puis le lança à Susanna. Elle l'attrapa de la main gauche. Sa main droite ne s'écarta pas de la crosse du revolver, constata-t-il avec satisfaction. Elle tirait mieux, plus naturellement qu'Eddie. Mais elle avait appris cette leçon-là moins vite que lui. S'il s'était trouvé à leur côté lors de la fusillade chez Balazar, peut-être aurait-elle progressé plus vite, mais elle avait fini par apprendre. Elle examina le caillou et y vit un sillon profond d'à peine 1 millimètre. « Tu n'as fait que l'effleurer, » dit Roland en revenant près d'elle. « Mais ça suffit parfois lors d'un affrontement. Si tu effleures un tireur, tu l'empêches de bien viser. » Il s'interrompit. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» « Tu ne le sais pas, n'est-ce pas ? Tu ne le sais vraiment pas ? Non, ton esprit m'est souvent fermé, Susanna. » Il n'y avait aucune nuance d'excuse dans sa voix, et Susanna secoua la tête exaspérée. Les fluctuations soudaines de sa personnalité irritaient parfois Roland. Elle était également irritée par le fait qu'il disait toujours exactement ce qu'il pensait. C'était l'homme le plus littéral qu'elle ait jamais rencontré. « D'accord, » fit-elle. « Je vais te dire pourquoi je te regarde comme ça, Roland. Parce que tu m'as joué un sale tour. Tu m'as dit que tu ne me giflerais pas, que tu ne pouvais pas me gifler, même si je ratais complètement mon coup. Mais, ou bien tu m'as menti. Ou alors, tu es un imbécile, et je sais que tu n'es pas un imbécile. Les gifles ne se donnent pas toujours avec la main, comme pourraient en témoigner tous les hommes et toutes les femmes de ma race. Il existe un dicton dans mon pays. Les bâtons et les pierres me briseront les os, mais les moqueries ne me blesseront jamais, acheva Roland. Ce n'est pas tout à fait ça, mais ça s'en approche. « Peu importe. C'est quand même une connerie. C'est pas pour rien qu'on dit que certaines paroles sont blessantes. Tes paroles m'ont fait mal, Roland. Est-ce que tu vas rester planté là à prétendre que tu ne t'en doutais pas ?» Elle se redressa sur son fauteuil roulant, le regardant avec une curiosité teintée de sévérité, et Roland pensa «
pour la énième fois que les culés de cul blanc de son pays devaient être très courageux ou très stupides pour avoir osé l'affronter, fauteuil roulant ou pas. Et comme il avait visité leur monde, il ne pensait pas que le courage était la bonne réponse.
Je n'ai pas songé au mal que je pouvais te faire, je ne m'en suis même pas soucié, dit-il patiemment. J'ai vu que tu montrais les dents et que tu avais l'intention de mordre, aussi t'ai-je placé un bâton entre les mâchoires. Et ça a marché, n'est-ce pas ?
Le visage de Susanna exprimait à présent la peine et l'étonnement.
Espèce de salaud !
Au lieu de lui répondre, il s'empara du revolver glissé dans l'étui, dégagea maladroitement le barillet avec les trois doigts qui lui restaient à la main droite et commença à le recharger de la main gauche.
« Jamais je n'ai vu quelqu'un d'aussi arrogant que tu avais besoin de mordre, » dit-il d'une voix toujours aussi patiente.
« Sinon, tu aurais raté ta cible. Tu aurais tiré avec ta main et avec ton arme au lieu d'employer ton œil, ton esprit et ton cœur. Tu penses que je t'ai joué un tour ? Que je me suis montré arrogant ? Pas moi. Moi, Susanna. » Je pense que c'était toi qui avais le cœur plein d'arrogance. Je pense que c'était toi qui avais l'esprit plein de sales tours à jouer. Ça ne me dérange pas, bien au contraire. Un pistolero sans dents n'est pas un pistolero.
Je ne suis pas un pistolero, bon sang !
Il fit semblant de ne pas l'avoir entendu. Il pouvait se le permettre. Si elle n'était pas un pistolero, alors il était un bafou bafouilleux. S'il s'agissait d'un jeu, je me serais conduit tout autrement. Mais ce n'est pas un jeu, c'est... »
Sa main valide se posa quelques instants sur son front, les doigts en éventail sur sa tempe. Susanna vit que leurs extrémités tremblaient légèrement. « Qu'est-ce qui te trouble, Roland ? » demanda-t-elle à voix basse. Sa main s'abaissa lentement. Il remit le barillet en place et glissa le revolver dans l'étui.
« Rien. »«
Si ?» « Il y a quelque chose. » »«
Je l'ai remarqué. » »« Et Eddie aussi. » »«
Ça a commencé juste après qu'on a quitté la plage. »« Il y a quelque chose qui ne va pas et ça ne s'arrange pas. »«
Tout va bien. »
Elle tendit les mains vers la sienne et s'en empara. Sa colère l'avait quittée, du moins pour le moment. Elle le regarda droit dans les yeux, sans broncher.
« Eddie et moi, ce monde n'est pas le nôtre, Roland. Sans toi, nous y mourrions. Nous aurions tes armes et nous saurions nous en servir. Tu nous as bien appris à le faire. Mais nous mourrions quand même. Nous avons besoin de toi. Alors dis-moi ce qui ne va pas. Laisse-moi t'aider. Laisse-nous t'aider. »
Il n'avait jamais été de ces hommes qui se soucient de comprendre leur propre personnalité. Le concept de conscience de soi, sans parler de celui d'analyse, lui était étranger. Il était avant tout soucieux d'agir, de consulter en un éclair les méandres mystérieux de son esprit, puis d'agir aussitôt. Il était le plus parfaitement accompli d'entre tous, un homme dont l'âme profondément romantique était enfermée dans une boîte aux lignes simples et violentes, faite d'instinct et de pragmatisme. Il jeta un vif coup d'œil en lui-même et décida de tout dire à Susanna.
Quelque chose n'allait pas. Oh oui, oh que oui.
Ça avait rapport avec son esprit. C'était aussi simple que sa nature et aussi étrange que cette bizarre vie d'errance que sa nature l'avait conduite à adopter. Il ouvrit la bouche pour déclarer « Je vais te dire ce qui ne va pas, Susanna. Il me suffira de trois mots. Je deviens fou. » Mais avant qu'il n'ait pu prononcer une syllabe, un nouvel arbre s'effondra dans la forêt dans un vacarme énorme, assourdissant. Cet arbre était plus proche, et il n'était pas en train de se livrer à un duel de volonté déguisé en leçon. Tous deux l'entendirent, tous deux entendirent les cris paniqués des corbeaux, et tous deux remarquèrent que l'arbre s'était effondré non loin de leur campement. Susanna s'était tournée vers la source du bruit, mais ses yeux écarquillés par la panique se reposèrent sur le visage du pistolero.
« Eddie !»
dit-elle. Un cri monta de l'immensité verdoyante qui s'étendait derrière eux, un puissant cri de rage. Un nouvel arbre s'effondra, puis un autre. On aurait cru entendre des salves de mortiers. Du bois sec, pensa le pistolero, des arbres morts.
Eddie !
Hurla Susanna.
Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est tout près de Eddie !
Ses mains se posèrent sur les roues de son fauteuil et entreprirent laborieusement de lui faire faire demi-tour.
Pas le temps !
Roland l'attrapa par les aisselles et la souleva. Il l'avait déjà portée lorsque le terrain était trop accidenté pour son fauteuil. Eddie lui avait rendu le même service. Mais elle ne cessait de s'étonner de son incroyable vivacité. À un instant donné, elle s'était assise sur son fauteuil, un accessoire acheté durant l'automne 1962 chez le meilleur spécialiste new-yorkais. L'instant d'après, elle était juchée en équilibre instable sur les épaules de Roland, ainsi qu'une pom-pom girl, ses cuisses musclées serrées autour du cou du pistolero qui avait levé les bras en arrière pour lui en serrer la taille. Il se mit à courir, foulant de ses bottes le tapis d'aiguilles entre les traînées laissées par le fauteuil.
« Odetta !»
cria-t-il en l'appelant sous le coup de l'émotion par le nom sous lequel il l'avait initialement connu.
« Ne perds pas le revolver, au nom de ton père !»
Il sprintait à présent entre les arbres. Lorsqu'il accéléra l'allure, une mosaïque mouvante de dentelles d'ombre et de mailles de soleil défila sur leur corps. Il dévalait une pente. Susanna leva la main gauche pour écarter une branche qui menaçait de lui faire quitter son perchoir. Au même instant, elle posa la main droite sur la crosse de son antique revolver et le serra. « Un peu plus d'un kilomètre, pensa-t-elle. Combien de temps faut-il pour parcourir cette distance ? Pas très longtemps s'il ne glisse pas sur ses foutues aiguilles de pin, mais peut-être trop longtemps. Faites qu'il ne lui arrive rien, mon Dieu ! Faites qu'il n'arrive rien à mon Eddie ! » Comme pour lui répondre, la bête invisible poussa un nouveau cri. Sa voix évoquait le tonnerre, évoquait la mort.